Audiolib présente « Pars vite et reviens tard » de Fred Vargas, lu par Thierry Janssen. Chapitre 1. Et puis quand les serpents, chauves-souris, blaireaux et tous les animaux qui vivent dans la profondeur des galeries souterraines sortent en masse dans les champs et abandonnent leur habitat naturel. Quand les plantes à fruits et les légumineuses se mettent à pourrir et à se remplir de vers. Chapitre 2. Les types à Paris marchent beaucoup plus vite qu'au Guilvinec. Josse l'avait constaté depuis longtemps. Chaque matin, les piétons s'écoulaient par l'avenue du Maine à la vitesse de 3 nœuds. Ce lundi, Josse filait presque ses 3,5 nœuds, s'efforçant de rattraper un retard de 20 minutes, en raison du marc de café qui s'était déversé en totalité sur le sol de la cuisine. Ça ne l'avait pas étonné. Josse avait compris depuis longtemps que les choses étaient douées d'une vie secrète et pernicieuse. Hormis peut-être certaines pièces d'accastillage qui ne l'avaient jamais agressé, de mémoire de marin breton, le monde des choses était à l'évidence chargé d'une énergie tout entière concentrée pour emmerder l'homme. La moindre faute de manipulation, parce qu'offrant à la chose une liberté soudaine, si minime fut-elle, amorçait une série de calamités en chaîne, pouvant parcourir toute une gamme du désagrément à la tragédie. Le bouchon qui échappe au doigt en était, sur le mode mineur, un modèle de base. Car un bouchon lâché ne vient pas rouler au pied de l'homme, en aucune manière. Il se love derrière le fourneau, mauvais, pareil à l'araignée en quête d'inaccessible, déclenchant pour son prédateur, l'homme, une succession d'épreuves variables, déplacement du fourneau, rupture du flexible de raccordement, chute d'ustensile, brûlure. Le cas de ce matin avait procédé d'un enchaînement plus complexe, amorcé par une bénigne erreur de lancer entraînant fragilisation de la poubelle, affaissement latéral et épandage du filtre à café sur le sol. C'est ainsi que les choses, animées d'un esprit de vengeance légitimement puisé à leurs conditions d'esclaves, parvenaient à leur tour par moments brefs mais intenses à soumettre l'homme à leur puissance larvée, à le faire se tordre et ramper comme un chien, n'épargnant ni femme ni enfant. Non, pour rien au monde, Josse n'aurait accordé sa confiance aux choses, pas plus qu'aux hommes ou à la mer. Les premières vous prennent la raison, les seconds l'âme et la troisième la vie. En homme aguerri, Josse n'avait pas défié le sort et avait ramassé le café comme un chien, grain par grain. Il avait accompli sans broncher la pénitence et le monde des choses avait reflué sous le joug. Cet incident matinal n'était rien, rien en apparence qu'un désagrément négligeable, mais pour Josse, qui ne s'y trompait pas, il était le clair rappel que la guerre des hommes et des choses se poursuivait et que dans ce combat, l'homme n'était pas toujours vainqueur, loin s'en fallait. Rappel des tragédies, des vaisseaux dématés, des chalutiers écartelés et de son bateau, le Vent de Norrois, qui avait fait eau le 23 août en mer d'Irlande, à 3 heures du matin, avec 8 hommes à bord. Dieu sait pourtant si Josse respectait les exigences hystériques de son chalutier, et Dieu sait si l'homme et le bateau étaient conciliants l'un pour l'autre. Jusqu'à cette foutue nuit de tempête, où pris d'un coup de sang, il avait frappé le plat-bord du poing. Le Vent de Norrois, déjà presque couché sur tribord, avait brusquement fait eau à l'arrière. Moteur noyé, le chalutier avait dérivé dans la nuit, les hommes écopant sans relâche, pour s'immobiliser enfin sur un récif à l'aube. C'était il y a 14 ans, et 2 hommes étaient morts. 14 ans que Josse avait déglingué l'armateur du Norrois à coups de botte. 14 ans que Josse avait quitté le port du Guilvinec. Après 9 mois de tôle pour coups et blessures avec intention de donner la mort. 14 ans que sa vie presque entière avait coulé par cette voie d'eau. Josse descendit la rue de la Gaîté, les dents serrées, mâchant la fureur qui remontait en lui chaque fois que le Vent de Norrois, perdu en mer, faisait surface sur les crêtes de ses pensées. Au fond, ce n'était pas contre le Norrois qu'il en avait. Ce bon vieux chalutier,